Every day. Anywhere. Anytime. A digital Gaspel channel. Ebenezer International. Your station.
Vous écoutez Flash sur la Bible.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci de votre intérêt pour cette radio dont l'objectif principal est de vous pourvoir de bonne nourriture spirituelle. C'est votre ami Franck Doristil qui est de retour avec un nouveau numéro de Flash sur la Bible, un programme que nous mettons à votre disposition pour vous permettre de découvrir jour après jour les différents livres qui compose les Saintes Écritures, la Bible. Nous venons de terminer l'étude de l'Ancien Testament, la première partie de ce livre merveilleux. Vient maintenant le moment de commencer la découverte de sa deuxième partie, le Nouveau Testament. Et à l'émission d'aujourd'hui, nous aurons une introduction générale suivie de l'Évangile selon Saint Matthieu, le premier livre composant la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, bien sûr. C'est votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous parle depuis la France métropolitaine, dans le Val d'Oise. Et je vous rappelle que Flash sur la Bible est une courtoisie de Bible Ouverte, qui est un site de l'association Parole Certaine, soutenue par l'Association des Églises Action biblique de Suisse. À la fin de l'émission, nous vous donnerons les coordonnées qui vous permettront de contacter les responsables de cette association. Hello and thank you for joining us today at the Digital Gospel Channel, the Radio Ebenezer International. I'm Frank Doristil and I will be your host as you listen to Christian broadcast designed to feed your spirit. I pray you will be encouraged and that you will grow in your faith in Jesus Christ, our Savior. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.frankradio.podomatic.com or www.radioeben-israelinternational.com. Staying there in peace. Je vous rappelle simplement que vous écoutez la RCEI à l'heure de Flash sur la Bible. Pour commencer, nous vous proposons ce chant de la chorale Gospel Praise Family. I will follow you, je te suivrai. Un chant qui nous rappelle la réponse des disciples à l'invitation de Jésus-Christ pour le suivre. Je te suivrai, Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. C'était la chorale Gospel Praise Family dans ce chant intitulé I Will Follow You, je te suivrai. C'est le moment maintenant de céder l'antenne à l'équipe de Bible Ouverte pour cette première étude autour du Nouveau Testament. Je vous souhaite une agréable écoute.
Introduction aux quatre évangiles. Diverses questions se posent aux lecteurs du Nouveau Testament et tout d'abord celle-ci.
Pourquoi le Nouveau Testament contient-il quatre évangiles plutôt qu'un seul ?
La venue de Jésus-Christ fut un événement d'une importance exceptionnelle, très certainement l'événement le plus saillant de l'histoire de l'humanité. Aussi est-il compréhensible que Dieu ait voulu plusieurs témoins pour nous raconter ce fait capital, décisif pour des multitudes si l'on considère les conséquences de la mort et de la résurrection de Christ. Permettez-moi de tirer un parallèle. Lorsqu'il se produit quelque chose de particulier dans votre ville ou votre pays, plusieurs journalistes se rendent sur les lieux et font leur compte rendu, souvent chacun à sa manière. Ou bien, lors d'un accident de la route, la police fait appel à plusieurs témoins avant d'établir son constat et d'attribuer les responsabilités. Or, si pour des faits d'importance relative, plusieurs témoins sont parfois nécessaires, n'est-ce pas normal que Dieu en ait choisi plusieurs pour raconter le plus grand événement de l'histoire ?
Plusieurs témoins, d'accord. Mais pourquoi quatre, plutôt que deux ou cinq, par exemple ?
Il est des raisons précises pour lesquelles Dieu a voulu que nous ayons dans notre Bible quatre évangiles. Jésus-Christ nous y est présenté sous quatre aspects différents. Matthieu le révèle comme roi des Juifs, Marc comme serviteur de l'Éternel, Luc comme parfait homme et Jean comme fils de Dieu. Il s'agit là de quatre révélations distinctes mais complémentaires qui étaient du reste comme exigées par certaines prophéties de l'Ancien Testament.
Des prophéties de l'Ancien Testament ? Vous pensez que des prophéties ont comme motivé le caractère particulier de chaque évangile ?
Eh bien, certainement. Plusieurs exemples nous le montrent. Je pense à quatre annonces messianiques où les prophètes prévoient la venue de Jésus-Christ en introduisant leur déclaration par la préposition « voici ». Zacharie annonce « voici ton roi ». Ésaïe déclare « voici mon serviteur ». De son côté, David propose dans un psaume « voici l'homme ». Enfin, Ésaïe complète avec les mots « voici votre Dieu ». Ne fallait-il pas que le Nouveau Testament apporte en quelque sorte la démonstration de ces quatre voici ? Or, les quatre évangiles montrent successivement que Jésus est roi, serviteur, homme et Dieu.
Avez-vous d'autres exemples de ce genre ?
Oui, j'en ai encore deux à l'esprit. Examinons, si vous le voulez bien, quatre prophéties de l'Ancien Testament où le Messie fut présenté comme le germe, c'est-à-dire la semence de vie envoyée par Dieu dans le monde. Ainsi, Jérémie, au chapitre 23, verset 5 de sa prophétie, disait « Dieu suscitera à David un germe ». C'est le message de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus-Christ est présenté comme fils de David. Zacharie, au chapitre 3, verset 8, annonce « Mon serviteur le germe ». C'est le message de l'évangile selon Marc. Et plus loin, le même prophète Zacharie reprend la pensée en annonçant « Un homme dont le nom est germe ». Zacharie 6, 12. C'est le message de l'évangile selon Luc. Quant à Ésaïe, il précise « Le germe de l'Éternel » ou « Le germe de Dieu ». Ésaïe 4, 2, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, message de l'évangile selon Jean. Et maintenant, le deuxième exemple. Je pense aux quatre couleurs des étoffes utilisées dans le tabernacle de Moïse. Je vous rappelle que tout dans ce temple portatif élevé par les enfants d'Israël au désert était symbolique de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Eh bien, on retrouve toujours les quatre mêmes couleurs pour les différentes tentures. Voyez par exemple la porte d'entrée du parvis. C'était un rideau que l'Israélite n'avait qu'à soulever pour pénétrer dans l'enceinte du tabernacle. Ce rideau était pourpre, écarlate, blanc et bleu. La pourpre, c'est la couleur des rois, qui évoque par avance la royauté de Christ, donc le message de l'évangile selon Matthieu. L'écarlate, c'est la couleur du sang, donc du sacrifice. Et l'évangile selon Marc présente Jésus, le serviteur, qui donne sa vie en sacrifice. Le blanc, c'est la couleur de la pureté. Il préfigure Jésus-Christ, homme parfait et sans péché, né miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. C'est le message de l'évangile selon Luc. Enfin, le bleu, la couleur du ciel, annonce Jésus-Christ, le Fils de Dieu descendu du ciel. C'est le message de l'évangile selon Jean. Nous sommes ici en présence de l'une des merveilles de l'Écriture. Il fallait que l'Israélite pénètre dans l'enceinte du tabernacle par cette porte de quatre couleurs pour s'approcher de l'autel des holocaustes où il pouvait obtenir le pardon de ses péchés. Or, cette porte préfigure la personne de Jésus-Christ présenté précisément par les quatre évangiles. N'a-t-il pas dit de lui-même « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé » Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 9. Oui, Christ est la porte du salut. Celui qui accède à Dieu par lui obtient le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Il n'est pas une porte de salut parmi d'autres, mais la porte du salut. Car il n'y a de salut en aucun autre, disait l'apôtre Pierre en acte 4, 12.
Mais comment découvrir les quatre aspects de la personne de Jésus-Christ en lisant les évangiles?
On peut les découvrir par certaines comparaisons. Par exemple, la généalogie de Jésus-Christ. Je lis le premier verset de l'évangile selon Matthieu, « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Le but de l'évangile selon Matthieu est de nous présenter Jésus-Christ comme fils de David, donc roi, et fils d'Abraham, donc juif. C'est ainsi qu'il présente la généalogie du Messie. Dans l'évangile selon Marc, il n'y a pas de généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le but de l'évangile selon Marc était de nous présenter Jésus-Christ comme serviteur. Et qui s'occuperait de la généalogie d'un serviteur? Il est donc dans la Bible des silences voulus de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, nous trouvons aussi une généalogie de Jésus-Christ. Elle fait remonter les origines terrestres du Fils de Dieu, non pas à Abraham, mais à Adam. Pourquoi? Parce que le but de l'évangile selon Luc est de présenter Jésus-Christ comme parfait homme. Enfin, dans l'évangile selon Jean, nous chercherions en vain une généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? Le but de l'évangile selon Jean est de nous révéler Jésus comme fils de Dieu directement descendu du Père. Considérons maintenant un autre fait. Certaines expressions caractéristiques utilisées dans les évangiles mettent en évidence l'orientation de chacun d'eux. Ainsi, l'évangile selon Matthieu cite 18 fois la phrase « afin que les Écritures soient accomplies ». Pour quelle raison? Parce qu'en présentant Jésus comme roi des Juifs, il incombait à Matthieu de démontrer que Jésus était bien le Messie annoncé par les Écritures. Dans l'évangile selon Marc, nous voyons le serviteur de l'Éternel à l'œuvre. Or Jésus était un parfait serviteur. Aussi n'est-ce pas étonnant que dans cet évangile apparaisse pas moins de 41 fois un petit mot grec qui, dans nos versions, est traduit par « immédiatement », « à l'instant » ou « aussitôt ». N'est-ce pas là l'indice d'un service parfait? N'est-ce pas le serviteur parfait qui agit immédiatement ou aussitôt? Dans l'évangile selon Luc, une expression réapparaît à diverses reprises. Jésus émut compassion. Or, ce troisième évangile montre Jésus, homme parfait, rempli de compassion pour la souffrance des hommes, prêt à les guérir et à les sauver. Enfin, dans l'évangile selon Jean, nous trouvons 81 fois le verbe « croire » et 35 fois le mot « vie ». Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'évangile selon Jean révèle Jésus comme fils de Dieu. Or, il faut croire au fils de Dieu pour avoir la vie. Ainsi, les mots et expressions caractéristiques de chacun des évangiles font ressortir le message distinctif que le Saint-Esprit réservait à chacun d'eux. Mais arrêtons-nous encore sur l'orientation générale du message de chacun des évangiles. Certains commentateurs ont défini cette orientation en montrant que Matthieu regarde plutôt vers le passé, l'accomplissement de l'Ancien Testament, que Marc s'exprime le plus souvent au présent, que Luc conduit ses lecteurs vers l'avenir lorsque le Fils de l'homme reviendra, et que Jean montre le Fils de Dieu sorti de l'éternité passée pour conduire les croyants dans la certitude de l'éternité future en sa présence. Peut-être que ce schéma ne tient pas suffisamment compte de la richesse des évangiles, tous remplis à divers degrés du passé, du présent, de l'avenir et de l'éternité. Mais quoi qu'il en soit, l'éternité est devant chacun de nous. Si vous n'avez pas encore accepté Christ comme votre Sauveur, la solution à l'important problème de la mort et de l'au-delà, c'est qu'aujourd'hui, vous vous mettiez en règle avec Dieu et que vous vous repentiez devant lui en confessant votre péché et que vous reconnaissiez que Jésus-Christ a porté à la croix du calvaire votre condamnation en expiant votre iniquité. Alors, vous recevrez la vie éternelle, ce qu'il vous certifie lui-même dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24.
« en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »
Avant d'aborder la deuxième partie de l'émission, écoutons Daniel Piala dans ce chant qui a pour titre « Fondé sur le roc ». Et ce roc n'est autre que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant.
C'est l'histoire de deux maisons, admirable construction. La première aimait la mer, sur le sable elle s'était posée. Entre un peu plus loin en arrière, avait préféré s'installer. Sur le roc. On en creuse des idées, on en forme des projets. Quand les nuages s'amoncellent, que le ciel commence à tourner, c'est ici que sera malgré les orages, se relever. Après la tornade, c'est pas facile. J'ai tant reçu de coups, de coups, de coups. Si je m'appuie sur le sable humide, je sais très bien que je cours à la ruine. Il n'y a qu'un lieu où je tiendrai le coup, le coup, le coup.
Fondé sur le roc.
Vous êtes bien sur la radio chrétienne Ebenezer International à l'heure de Flash sur la Bible. C'était l'artiste Daniel Piala dans ce chant intitulé « Fondé sur le roc ». Rejoignons nos amis de Bible ouverte pour la deuxième partie de l'émission.
L'Évangile selon Matthieu. Au cours des premières décennies de l'Église primitive, les témoins oculaires de la vie terrestre de Jésus-Christ racontaient autour d'eux les événements auxquels ils avaient assisté. Mais, avec leur disparition progressive, le besoin d'un texte écrit s'est fait sentir. C'est alors que Dieu a choisi 4 témoins de ces événements extraordinaires et, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont rédigé le récit de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais dites-nous, en quelle langue les évangélistes ont-ils écrit leurs textes?
Ils l'ont écrit dans la langue qu'ils connaissaient le mieux, probablement l'araméen pour Matthieu et très certainement le grec pour Marc, Luc et Jean.
Et que savons-nous de Matthieu, l'auteur du premier évangile?
Cet homme était un publicain, nous dirions aujourd'hui peut-être un percepteur d'impôts ou, si vous préférez, un douanier, qui prélevait pour le compte de l'autorité romaine les taxes que les voyageurs devaient payer en passant d'une province à l'autre. La profession de Matthieu devait le rendre plutôt impopulaire auprès des Juifs, en général hostiles à l'autorité occupante. Néanmoins, le Seigneur choisit Matthieu, que le texte biblique appelle aussi Lévi, et cet homme, habitué à consigner par écrit les sommes qu'il percevait, a été employé dans l'orientation à laquelle sa profession l'avait préparé pour montrer à ses compatriotes l'importance de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Effectivement, l'expression « afin que les Écritures soient accomplies » revient fréquemment comme un leitmotiv dans cet évangile, car le Saint-Esprit avait assigné à Matthieu cet objectif « prouver aux Juifs par l'Ancien Testament que Jésus était leur Messie ».
Si c'est là le message central de l'Évangile selon Matthieu, pouvez-vous citer un exemple qui le démontre?
Oui, je vous invite à lire au chapitre 21, les versets 4 et 5. Matthieu 21, 4 et 5. Matthieu décrit ici l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Puis il dit « Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. » Tous les chapitres de l'Évangile selon Matthieu mettent en relief la royauté de Jésus-Christ. Matthieu 1 présente les titres généalogiques du roi. En Matthieu 2, les mages venus d'Orient posent cette question « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Matthieu 3 nous montre Jean-Baptiste, messager et précurseur du roi, qui proclame au désert « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » En Matthieu 4, Jésus-Christ lui-même reprend ce même message et le proclame partout en Palestine. Puis, les chapitres 5, 6 et 7 sont consacrés au sermon sur la montagne. Jésus-Christ y révèle les principes fondamentaux de son royaume sur la terre. Soulignons en passant que ce royaume n'a pas été accepté par les Juifs. Aussi, l'application littérale de certains de ces principes est-elle reportée au jour où Jésus-Christ règnera sur la terre. Toutefois, j'ai hâte de dire que ces pages admirables sont à la base de la morale et de l'éthique chrétienne et que de ce fait, elles nous concernent directement. Les chapitres 8 et 9 de l'Évangile selon Matthieu démontrent que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais avant tout en puissance. Effectivement, après les paroles du sermon sur la montagne, la puissance messianique est à l'œuvre, prouvant aux Juifs que ce prophète qui guérit les malades, délivre les possédés, ressuscite les morts, c'est bien leur roi, leur Messie. Au chapitre 10 de l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur envoie ses disciples dans les villes et les villages pour proclamer aux Israélites que le royaume des cieux s'est approché d'eux en la personne de leur roi. Puis, à partir des chapitres 11 et 12, les chefs religieux d'Israël, jaloux du succès de Jésus, prennent position contre lui. Le roi est rejeté. Son précurseur Jean-Baptiste est emprisonné. Aussi le Seigneur se tourne-t-il vers les foules, déçues de la religion, puis vers les païens. Il propose à tous sa grâce inconditionnelle et illimitée. Le chapitre 13 apparaît alors comme une charnière dans cet évangile selon Matthieu, puisque son enseignement ne concerne plus seulement les Juifs de l'époque, mais chacun de nous.
Excusez-moi de vous interrompre. Pensez-vous vraiment que les paraboles de Matthieu 13 ont une signification pour nos temps?
Certainement. En énonçant les paraboles du royaume des cieux, Jésus, le roi des cieux, lève le voile sur l'avenir et prédit à ses auditeurs les conséquences de son rejet. Des situations confuses se développeront ici-bas. D'une part, les vrais disciples du Seigneur le suivront, le serviront, le glorifieront. D'autre part, les formes et les imitations de la piété, les situations fausses et les erreurs doctrinales se manifesteront parallèlement à un christianisme vrai et authentique. Tel est le sujet des paraboles du royaume des cieux. Dans chacune d'elles, nous voyons un contraste entre le vrai et le faux. Dans la parabole du semeur, par exemple, il y a quatre terrains, mais un seul de ces terrains est fertile. Dans la parabole suivante, l'ivraie croît en même temps que le bon grain. Même principe un peu plus loin, dans la parabole du levain, qui fait lever toute la pâte. C'est l'image du ferment des fausses doctrines qui infectent l'ensemble de la chrétienté. Et cette situation se prouve aujourd'hui. Le vrai et le faux cohabitent et se développent simultanément. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais seul Jésus-Christ connaît ceux qui lui appartiennent parce qu'ils sont nés de nouveau. Poursuivons notre survol de l'Évangile selon Matthieu. Dans les chapitres 14 à 16, le Seigneur nourrit la foule affamée, calme la tempête sur la mer, guérit la fille d'une païenne et propose sa grâce à ceux qui se sont distancés des chefs religieux dans leur décision de rejeter leur roi. Et cela ressort encore davantage dans les chapitres 17 à 23, où Jésus-Christ annonce à plusieurs reprises sa mort à la croix. Il monte à Jérusalem et là, il affronte les défenseurs de la tradition judaïque et certaines délégations des politiciens de la nation. Dans leur jalousie, les uns et les autres complotent déjà de le faire mourir. Puis, comme une parenthèse dans le récit, les chapitres 24 et 25 sont consacrés au discours du Seigneur sur le mont des Oliviers. C'est comme une fenêtre ouverte sur les circonstances précédant son retour et son avènement comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Les traits caractéristiques de l'Évangile selon Matthieu ressortent jusqu'à la fin. Ainsi, il s'attache à montrer la responsabilité des Juifs lors de la crucifixion du Messie. Dans les chapitres 26 et 27, qui sont entièrement consacrés à la passion de Jésus-Christ, Matthieu seul relève la phrase que les Juifs prononcèrent lors de la condamnation de Jésus-Christ : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Matthieu 27, 25. Or, l'histoire a abondamment démontré les effets dramatiques de cette malédiction qu'Israël s'est attirée à ce moment-là.
Alors, les Juifs seraient-ils plus coupables que les autres peuples parce que leurs chefs ont décidé la mort du Messie?
Non, je pense que le monde entier, et vous comme moi, nous avons notre part de responsabilité dans le crime de la crucifixion. Mais les Israélites avaient été prévenus de la venue du Messie par l'Ancien Testament. Ils avaient eu tous les privilèges devant Dieu. Aujourd'hui encore, ils sont aimés à cause de leur Père, dit l'Écriture. C'est pourquoi tout chrétien a le devoir d'honorer ce peuple qui a donné naissance à notre Sauveur. Mais la Bible nous montre que tant qu'il n'aura pas confessé son crime de la croix, il n'y aura pas de renaissance spirituelle et de bénédiction divine pour ce peuple. Au contraire, il souffrira sans doute encore beaucoup, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable devant le Fils de Dieu et, selon les termes inspirés du prophète Zacharie, jusqu'à ce qu'il pleure sur lui, le Messie, comme on pleure sur un fils unique. Le chapitre 28 de Matthieu est consacré à la résurrection. Une fois encore, Matthieu est le seul évangile qui montre le mensonge flagrant par lequel on a essayé de nier le miracle de la résurrection. Des Juifs ont répandu le bruit que, malgré la garde postée à l'entrée du sépulcre, les disciples du Seigneur avaient dérobé son corps. L'évangile selon Matthieu atteste en quelque sorte la responsabilité des Juifs face aux preuves messianiques que Jésus a fait éclater parmi eux au cours de 3 années de ministère terrestre.
Voulez-vous dire par là que l'évangile selon Matthieu ne s'adresse qu'aux Juifs?
Pas du tout. L'évangile selon Matthieu s'adresse en même temps à tous les hommes, mais il fait ressortir une priorité que Dieu a voulu, je cite l'apôtre Paul, « L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16. L'évangile selon Matthieu ouvre le Nouveau Testament, montrant ainsi que le salut en Jésus-Christ est d'abord proposé aux Juifs. Mais que de fois dans l'évangile selon Matthieu, le Seigneur a-t-il débordé le cadre du peuple juif pour s'adresser à tous, sans distinction de race ou de langue, invitant chacun à se repentir et offrant son salut à quiconque voulait bien le recevoir. Lisons ensemble Matthieu, chapitre 11, verset 28, c'est Jésus qui parle.
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Le Seigneur s'adressait alors à une foule de gens fatigués de la vie, souvent excédés par les scribes et les pharisiens, qui, par leur tradition religieuse, exerçaient une contrainte sur les âmes. Jésus proposait à tous soulagement, délivrance, repos. Seriez-vous aussi fatigués et chargés? Êtes-vous peut-être soucieux de l'avenir, préoccupés par les événements présents? Ployez-vous sous le joug des problèmes de la vie? Seriez-vous excédé par les circonstances ou par votre entourage? Ou bien chargé, même écrasé sous l'angoisse, les accusations, les doutes ou les craintes dépressives? Eh bien, vous qui êtes chargé, venez aujourd'hui à Jésus-Christ et il vous donnera le repos. Cette invitation n'a rien perdu de son actualité après 20 siècles. Jésus-Christ, le Sauveur de tous les hommes, vous connaît, vous comprend, vous aime. Et vous dites aujourd'hui,
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière pause musicale avec Denis et Isabelle Haye. Avant de terminer notre programme, si grand, si petit. Bonne écoute à toutes et à tous.
Par la bouche des enfants.
Dieu, tu l'as couronné de gloire, tu as tout mis sous ses pieds, jusqu'aux animaux sauvages. Qui donc cet être humain, l'homme qui est si petit, et pourtant tu le prends en main, tu te soucies de lui. À peine inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire, tu as tout mis sous ses pieds, jusqu'aux animaux sauvages.
Vous écoutez l'émission Flash sur la Bible, une courtoisie de Bible ouverte sur la RCEI, la radio chrétienne Ebenezer International.
Anywhere, anytime, the Digital Gospel Channel, Ebenezer International, your station.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs et auditrices, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Flash sur la Bible autour du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, ce livre merveilleux qui contient le plan de Dieu pour notre vie. C'était un réel plaisir de passer en votre compagnie ces précieuses minutes à l'étude des Saintes Écritures. Si ce programme vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, soyez libre de nous les envoyer à notre adresse email francradio@aol.com. Je répète, francradio@aol.com. Je vous invite également à visiter notre nouveau site afin de voir les différentes ressources que nous mettons à votre disposition. L'adresse est bien www.radioeben-ezerinternational.com. Je répète, www.radioeben-ezerinternational.com. Je vous rappelle également que Flash sur la Bible est une courtoisie de Bible ouverte, qui est une association de paroles certaines soutenue par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. Et pour en savoir plus, consultez le site www.bible-ouverte.ch. Je répète, www.bible-ouverte.ch. Et à vous tous qui étiez branché depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Flash sur la Bible avec votre ami Franck Doristil accompagné de l'équipe de Bible Ouverte que nous remercions sincèrement de sa collaboration avec la RCEI. Je vous dis merci et au revoir en vous laissant en compagnie de Dany et de Moïse Urtrel. Au revoir. C'était Flash sur la Bible. Flash sur la Bible, sur la radio chrétienne Ebenezer International, votre radio.
Tu es mon Dieu et je t'aime, toi qui m'as aimé le premier. Tu es venu me sauver de mon péché. Je ne pouvais pas moi-même me sortir de l'obscurité. Sur toute ma vie, ton soleil a brillé.
Je veux chanter ton nom, Seigneur, et t'exalter de tout mon cœur. Rien n'égale ta beauté sur toute la terre. Oui, je veux chanter.
Grâce, toi qui jamais ne changeras, tu es le même aujourd'hui et pour toujours. C'est toi qui as pris ma place, à la croix tu es mort pour moi, et sur toute ma vie a brillé ton amour.
Je veux chanter ton nom, Seigneur, et t'exalter de tout mon cœur. Rien n'égale ta beauté sur toute la terre. Oui, je veux chanter.
Alors viens, oui, approche-toi, et sur toute ta vie, sa lumière brillera.
Chante avec nous, Jésus est roi,
il est vivant.
Chanter ton nom, Seigneur, et t'exalter.